Bonjour, bienvenue à l'émission Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. Je suis Naomi, votre animatrice, et je suis en compagnie, comme toujours, de mes deux co-animatrices, Jeanne et Sarah-Jeanne. Bonjour!
Salut!
Donc, aujourd'hui à l'émission, nous allons discuter de l'éco-anxiété, un terme qui est devenu de plus en plus populaire là, dans les dernières années. Donc, on se rend compte, en fait, de nos jours que les changements climatiques ont aussi des conséquences au niveau psychologique, donc au niveau de la santé mentale des individus. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc, on va se demander, en fait, c'est quoi l'éco-anxiété, tout d'abord, et comment ça se manifeste, mais aussi quels sont les enjeux de justice sociale qui sont liés au phénomène et quelles sont les pistes de solutions, finalement, qui peuvent nous aider à vivre avec ce phénomène-là. Donc, en fait, pour en discuter aujourd'hui, nous recevons à l'émission Laurélie Dubé, qui est étudiante au baccalauréat en psychologie de l'Université Laval et aussi auxiliaire de recherche sur un projet portant sur les émotions climatiques, qui est sous la direction de la professeure Audriane Deneau de l'Université de Montréal. Donc, bonjour Laurélie.
Bonjour.
Allô. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On t'invite aussi à l'émission en tant que membre du collectif Climat Santé Action, qui est un collectif étudiant de l'Université Laval. Donc, première question, en fait, c'est quoi le collectif Climat Santé Action?
Oui, d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui. Climat Santé Action, en fait, on est un regroupement d'étudiants et d'étudiantes dans le domaine de la santé à l'Université Laval. Alors, on est des étudiants soit en pharmacologie, en sciences infirmières, en santé publique, en nutrition ou en psychologie comme moi. Puis, on souhaite, en fait, sensibiliser les gens aux conséquences des changements climatiques sur notre santé physique ou mentale. Alors, on organise des événements où on se promène dans le campus avec un kiosque afin de discuter de ces enjeux-là avec la communauté universitaire. Par exemple, l'an dernier, on a organisé un événement sur la justice climatique au foyer sur le campus de l'université où des panélistes de différents domaines ont partagé le lien entre la justice climatique et leur domaine. On s'intéresse aussi au rôle des professionnels de la santé dans cette transition-là. Alors, on souhaite que les menaces environnementales soient intégrées dans le cursus scolaire, du moins que les profs mentionnent cet enjeu-là dans leurs cours. C'est pourquoi on a créé la campagne « Mon prof est un champion climatique ». Le but, c'est que les profs intègrent une minute climatique, comme on l'appelle, dans leurs cours quand le contenu du cours a un lien avec les effets des changements climatiques sur la santé. Donc, voilà.
Ah, super. Ben, merci. Donc, on voit, on peut faire un parallèle aussi avec notre propre initiative. Donc, vous concentrez vraiment aussi sur la vulgarisation des enjeux climatiques, mais sur un angle différent, donc la santé. Donc, justement, on se complémente bien aujourd'hui. Donc, maintenant, on va se concentrer sur le sujet de l'émission, qui est l'éco-anxiété. Donc, pour commencer... La première question, c'est quoi l'éco-anxiété? Puis, comment on peut la définir, en fait?
Oui. En fait, c'est un terme qui est quand même nouveau, là, un jeune terme. J'ai pris deux définitions qui, pour moi, résument bien tout ce qui est dit de l'éco-anxiété. Fait que la première, c'est celle qui est utilisée dans l'article de Mme Gousse-Lessard et M. Lebrun-Paré, qui sont des chercheurs et chercheuses québécoises. Puis, en fait, c'est eux, ils ont pris cette définition-là, comme quoi il y a un consensus de la communauté scientifique par rapport à cette définition. Puis, ça se définit ainsi, l'éco-anxiété est un état de malaise psychologique et parfois physique de degré variable, caractérisé par l'appréhension d'une menace plus ou moins éloignée dans le futur et significativement associée à la catastrophe écologique, elle-même perçue comme incertaine, difficilement prévisible et peu contrôlable. Il y a aussi une autre définition que j'aime bien qui est présentée en fait dans l'atelier que donne le collectif Écomotion, que moi j'ai assisté, qui a été donnée par Isabelle Béliveau. Puis elle a défini l'éco-anxiété comme faisant référence aux émotions, aux pensées et aux comportements qu'on peut avoir face à la prise de conscience des enjeux associés aux changements climatiques et environnementaux, notamment en lien avec l'inaction collective face à ceux-ci. C'est pas pathologique, puis on cherche pas à l'éliminer, excusez-moi, nécessairement. Donc, voilà.
OK. Maintenant qu'on a un peu cette définition-là en tête, quels seraient les symptômes de l'éco-anxiété? En tant qu'individu, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est affecté ou non par l'éco-anxiété?
Oui. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné, l'éco-anxiété, c'est pas un trouble, ça peut pas être diagnostiqué. Par contre, ça peut être reconnu comme un trouble anxieux. Dans le fond, on va diagnostiquer un trouble anxieux associé là, au changement climatique. Fait que dans le DSM, qui est le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, on peut dire que la personne a un trouble anxieux si les symptômes associés à l'éco-anxiété sont très intenses, si l'angoisse provoque une détresse qui nuit à sa capacité sur différents plans, fait que par exemple à la vie sociale, affective ou professionnelle. Fait que c'est à ce moment-là qu'on pourrait diagnostiquer un trouble anxieux. Cela dit, l'éco-anxiété n'est pas pathologique ou malsaine en tant que telle. C'est, on pourrait dire, une réaction qui est normale à un problème qui ne l'est pas. Mm-hmm. Parce que les émotions ont une fonction, en fait. Donc, si je peux parler un peu des symptômes là, par rapport à l'éco-anxiété. Il y a les symptômes qui sont définis par tel jeune que je trouve qui sont intéressants. Par exemple, que les pensées liées à l'environnement prennent énormément de place dans ta tête et sont récurrentes. Tu te sens très mal et tu appréhendes des conséquences possibles sur l'environnement. C'est un autre exemple de symptômes. De vivre du désespoir ou de la détresse en pensant à l'état de la planète. Et de faire des choix qui sont... Quand tu fais des choix en fait qui sont moins éco-responsables, ben tu vis en fait une grande culpabilité par rapport à ça, ou tu vis la paralysie. Fait que ça pourrait être des symptômes qui sont associés. Sinon, plus par rapport à la recherche là, puis au niveau psychologique, ben on peut les symptômes qu'on peut définir par rapport à l'éco-anxiété. Ça peut être sur différents aspects. Fait que, par exemple, au niveau cognitif, ben il peut avoir, on peut ressentir de la tristesse, de la colère, de l'angoisse, de la peur. Puis ils peuvent être, ces émotions-là peuvent être amplifiées par un sentiment d'impuissance qu'on a face à la crise climatique. Mais c'est sûr que les émotions se retrouvent sur un continuum. Le continuum, excusez-moi, fait que ça peut être de peu intense à très intense. Mm-hmm. Par rapport au niveau cognitif, ben là on peut avoir la rumination, des pensées qui sont envahissantes ou une altération des pensées. Au niveau interpersonnel, ben là on peut retrouver des conflits par rapport à notre entourage, qui des fois partagent pas les mêmes croyances que nous. Mmh. On peut vivre de l'isolement aussi, si on décide de s'isoler là, des personnes qui ont pas ces mêmes pensées-là. Au niveau physique, ben là on peut avoir des troubles de sommeil, de l'épuisement. Alors c'est ça. Puis si on est plus par rapport à l'évaluation de l'éco-anxiété chez les gens, ben il y a des outils qui ont été développés, des tests en fait, comme par exemple il y a le Climate Anxiety Scale qui a été développé en 2020, puis il vient vraiment évaluer toutes ces composantes-là de l'éco-anxiété là par rapport au niveau cognitif, interpersonnel, physique, émotionnel, puis ça vient donner un score qui peut nous confirmer si l'éco-anxiété est trop envahissant ou pas et comment ça se manifeste en fait chez les gens.
Merci. Et là, ayant ça en tête, est-ce qu'on peut différencier l'éco-anxiété et l'anxiété? Pourquoi en fait on a trouvé puis on a inventé un terme spécifique pour ce type d'anxiété-là?
Ouais, ben en fait l'anxiété, si je donne une courte définition, ben c'est une réponse qui est tournée vers l'avenir, puis qui est largement axée à une menace qui est diffuse, tandis que la peur c'est une réponse qui est appropriée, tournée vers le présent et de courte durée, puis une menace qui est identifiable. Fait que quand on parle de changement climatique, ben là on va dire qu'il y a une anxiété parce que c'est pas prévisible. Puis l'anxiété peut nuire à la santé, au bien-être lorsque c'est trop intense, chronique ou hors de contrôle. Fait que ça ressemble beaucoup à l'éco-anxiété, mais en fait, on a décidé d'apposer un terme qui est spécifique à l'anxiété vécue face au changement climatique parce que il y a beaucoup de personnes qui présentent en fait ces symptômes-là ou ces inquiétudes-là par rapport au changement climatique. Fait qu'habituellement, on invente un terme quand que il y a beaucoup de personnes qui présentent cette même forme d'anxiété pour un enjeu X. Fait que c'est pour ça que l'éco-anxiété a été inventée, en fait. Puis ça se retrouve d'ailleurs dans le dictionnaire depuis 2023, dans le Petit Robert et dans le Petit Larousse.
Okay. Très récent, donc.
Oui, ouais, c'est très récent.
Donc, maintenant, là, comme tu viens si bien de l'expliquer, on peut comprendre l'éco-anxiété là, comme une réaction psychologique ou cognitive là, face aux menaces des changements climatiques. Mais est-ce qu'il y a d'autres émotions ou réactions spécifiques qui ont été observées ou qui existent, en fait, face à la menace climatique? Donc, qui est différent là, de l'anxiété, de l'éco-anxiété?
Ouais. Dans la littérature, t'sais, on parle beaucoup d'éco-anxiété, mais il y a aussi le terme de d'éco-dépression qui a été qu'on peut lire dans la littérature. Fait que c'est ça, le sentiment de dépression, de tristesse associé au changement climatique. Mais par contre, il y a très peu d'études ou une définition encore sur ce terme-là. Il y a aussi des études qui ont été faites sur l'éco-colère. Fait que ça le dit, c'est la colère ou la frustration associée au changement climatique. Puis dans cette étude-là, là, en fait, qui est de Coffey et Hall, qui a été faite en 2021, ben l'éco-colère serait associée davantage à l'action climatique. C'est logique parce que justement la colère, c'est une émotion qui nous propulse à poser des actions. Okay. Tandis que la dépression, ben, on est plus dans la passivité. Fait que ça fait en sorte qu'on est moins dans l'action. Voilà. Sinon, l'éco-anxiété, des fois, il y en a qui trouvent que ce terme-là est trop réducteur ou trop intense par rapport à leur vécu émotionnel. Mm-hmm. Fait que là, on va parler peut-être plus d'éco-émotions, que là, c'est diverses émotions qui sont associées au changement climatique. Fait que là, on peut retrouver toute la gamme d'émotions, tristesse, inquiétude, rage. Mais il peut y avoir aussi des émotions qui sont positives, comme la joie, l'espoir, l'inspiration ou la résilience. Okay. Ces émotions positives-là, ben, ils sont plus associées à l'action collective également. Là, ça a été évalué dans la même étude aussi.
OK, c'est vraiment intéressant.
Ouais.
Dans cette perspective-là, on voit qu'il reste encore là, certains pans de la littérature à explorer. Est-ce qu'on sait, par contre, de manière générale, quel pourcentage de la population est affectée par l'éco-anxiété? Et dans cette perspective-là, est-ce que l'éco-anxiété est plus présente dans certaines régions du monde? Est-ce que, par exemple, ce serait plus présent dans les pays du Sud ou du Nord?
Ouais. C'est difficile de se prononcer sur la prévalence, les gens qui sont affectés par l'éco-anxiété dans les différentes parties du monde. Les études, en fait, ont été pour la plupart faites dans les pays qui sont occidentaux. Puis dans les pays qui sont non occidentaux, l'éco-anxiété ne fait pas nécessairement partie du langage courant. C'est difficile d'aller évaluer l'éco-anxiété. Puis on ne sait pas non plus comment ça se manifeste. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas l'éco-anxiété, mais ça se manifeste aussi peut-être d'une manière différente. Et la plupart des études sur l'éco-anxiété ont été faites aux États-Unis, en Australie ou en Finlande. Fait que c'est dur après ça de généraliser à l'ensemble des pays du monde. Puis la plupart des études qui ont été faites dans les autres régions du monde, mesure le niveau d'inquiétude face au changement climatique. Fait que pas nécessairement l'éco-anxiété comme on l'a décrite. Okay. Des fois, ça vient peut-être mesurer différentes choses, différentes nuances par rapport à notre réaction face au changement climatique. Il y a aussi une étude qui a été faite, une grosse étude là, qui a été faite par rapport à des jeunes, là, 10 000 jeunes à travers 10 pays, occidentaux et non occidentaux. Puis là, dans cette étude-là, on démontre que 75 % des jeunes de 16 à 25 ans qui trouvent que le futur est effrayant, que 83 % pensent que l'humanité a échoué à prendre soin de la planète. Fait que ça, c'est une étude qui a été faite par Caroline Ekman et ses collaborateurs. Puis il y a des, comme je l'ai dit, là, comme j'ai mentionné, des pays comme l'Australie, le Brésil, Finlande, la France, Nigeria, Philippines, les États-Unis. Fait que c'est des études là, quand même de grande portée.
Ouais, merci. Alors voilà. OK, puis justement, en quelques mots, est-ce que l'éco-anxiété affecterait de manière disproportionnée certains groupes spécifiques dans la population, là, t'as nommé les jeunes, par exemple, est-ce qu'il y aurait d'autres groupes?
Oui. J'ai oublié de mentionner là, une étude qui était plus par rapport au Québec, là, qui serait peut-être pertinent là, de le mentionner avant de cibler les groupes. Il y a une statistique, en fait, du baromètre de l'action climatique en 2023 qui a été produite par le groupe de recherche sur la communication marketing climatique. Puis ce rapport-là, en fait, ils ont pris 2000 Québécois et Québécoises de 18 ans et plus. Puis, ce que l'étude rapporte, c'est que 54 % des Québécois et Québécoises qui éprouvent de l'éco-anxiété, comparativement à 47 % l'an dernier, en 2022. Okay. Puis, il y a 70 % des Québécois et Québécoises qui disent avoir vécu des effets néfastes liés à la crise climatique. Puis, il y a près d'une personne sur trois qui dit être fatiguée d'entendre parler des changements climatiques. Alors, ça peut être intéressant d'être un peu plus local là, par rapport aux statistiques.
Mm-hmm. Puis justement pour montrer que c'est très présent ici aussi, là, l'éco-anxiété. Oui,
ouais, effectivement. Et puis, par rapport aux groupes là, qui sont plus ciblés là, par rapport à l'éco-anxiété, il y a, oui, les jeunes qui ressentent plus d'éco-anxiété. On dit que les femmes aussi ressentent, il y a une grande prévalence chez les femmes. Ceux qui ont une plus grande éducation aussi. Ceux qui vivent dans les régions les plus vulnérables, ainsi que les personnes plus marginalisées, incluant les Autochtones.
OK, super.
OK, parfait. Puis, en lien avec ça, tu sais, justement, si ces groupes-là vivent plus d'anxiété, est-ce que ça pourrait faire est-ce que ça pourrait ralentir leur action dans la lutte climatique? Est-ce que ça peut nuire à l'adhésion aux mesures environnementales? Ou à l'inverse, est-ce que l'éco-anxiété peut être un moteur d'action pour lutter contre les changements climatiques?
Ouais. En fait, je trouve ça intéressant. Le collectif Écomotion, dans leur formation, ils parlent de deux trajectoires de l'éco-anxiété. Il y a une trajectoire qui est plus non adaptative à l'éco-anxiété. Quand on a une prise de conscience de l'ampleur des changements climatiques, mais là, ça peut mener à des mécanismes psychologiques de défense, tels que l'évitement, le déni ou la paralysie. Fait que c'est un moyen vraiment de réduire rapidement l'inconfort qui est associé à cette crise-là. Mais les réactions peuvent mener à la détresse, puis nuire à la lutte contre les changements climatiques, parce que si on est dans le déni, bien évidemment, on n'est pas dans l'action climatique. Puis il y a un courant là, présentement sur les réseaux sociaux qui parle beaucoup, qui essaie de mettre l'accent sur le déni climatique pour décourager les gens à l'action climatique en disant qu'il n'y a plus rien à faire. Oui, puis là, ça vient jouer sur l'apathie que les citoyens ont, là, le fait de dire ça sert à rien de ressentir des émotions, de se préoccuper par rapport à ça parce qu'il n'y a rien à faire.
Il est trop tard.
Il est trop tard, exactement. Fait que là, ça, c'est un mouvement de déni climatique là, qui est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux qui peut nuire à l'action climatique. Mais il faut comprendre que selon la science, le pire est encore évitable. Puis ces discours-là, ils favorisent le climato-scepticisme et l'inaction, là, ce qui nuit vraiment à notre transition écologique.
Eh bien, justement, oui, ça peut freiner l'action climatique, mais on sait aussi que ce genre de... l'éco-anxiété en tant que telle peut nous aider à motiver l'action.
Oui.
Donc, c'est... En fait, comment ça peut motiver l'action? Puis est-ce que, justement, il y a des pistes de solutions pour justement, apaiser notre éco-anxiété, mais aussi pour être capable de l'utiliser à notre avantage, en fait, dans l'action climatique?
Oui. Bien, en fait, l'autre trajectoire, là, justement, il y a la trajectoire qui n'est pas adaptative de l'éco-anxiété, mais aussi la trajectoire qui est adaptative. Cette trajectoire-là, c'est la source, en fait, du moteur de changement, justement, pour une transformation socio-écologique. Fait qu'au lieu d'être dans les émotions plus, comme j'ai nommé précédemment, bien là, on est plus dans l'action de vouloir changer les choses. Puis ça l'aide, justement, à entreprendre des actions individuelles et ou collectives face aux enjeux environnementaux. Puis c'est sûr qu'il y a plusieurs stratégies là, pour venir réduire notre éco-anxiété parce que le but, c'est que ça ne soit pas envahissant chez les gens.
Oui.
La première étape que je conseillerais aux gens, c'est de reconnaître les moments qui sont difficiles. Fait que, tu sais, à quel moment ces pensées-là, ces émotions liées à l'environnement sont plus ou moins intenses. Puis à l'inverse, c'est quand les moments que tu te sens bien, tu sais, de prendre peut-être des notes de tout ça, de vraiment faire de l'introspection. Puis être vraiment attentif à l'effet que les médias peuvent avoir sur nous. Fait que trouver un équilibre dans la consommation des nouvelles, mais aussi d'être capable de se détacher là, puis de trouver le moment qui est le mieux pour vous de consommer ces nouvelles-là. Il y a aussi dans la gestion des émotions qui est vraiment important. Il y a deux stratégies qui sont proactives quand on vit de l'anxiété, qui est de résoudre le problème ou de réguler nos émotions. Avec les changements climatiques, c'est impossible de résoudre le problème immédiatement, là, comme si c'était une menace qu'on a, qui est visible, en fait. Une autre manière qui serait plus adaptative, ça serait de réorganiser le sens, c'est-à-dire d'évaluer cette situation-là sous un autre angle qui est cohérent avec nos valeurs, nos croyances et nos buts existentiels. Fait que, par exemple, faire des choses qui font du sens pour toi à petite échelle puis selon tes valeurs. Fait que cette stratégie-là est très intéressante dans un contexte où le stresseur il peut pas être résolu ou supprimé. Une stratégie qui est moins associée au bien-être là dans la gestion des émotions, ça serait de vouloir supprimer rapidement là comme je l'ai dit là avec l'évitement, déni ou banalisation de nos émotions. Il y a aussi toute une notion de la gestion de l'incertitude parce que là on peut pas prévoir l'avenir, fait que de gérer l'incertitude c'est un autre élément central là à la réduction de l'éco-anxiété. De s'engager socialement, justement, ça transforme notre anxiété en moteur de changement et en action concrète. Puis de pouvoir rencontrer des gens aussi qui ont les mêmes préoccupations que toi, tu te sens moins seule. Tu peux échanger avec ces personnes-là. Puis pour moi, ça m'a vraiment fait du bien là, de m'impliquer là, pour ça.
D'avoir un réseau.
Oui, parce que des fois, on n'a pas un entourage qui partage nécessairement les mêmes préoccupations.
Exact.
Puis
c'est très, très important aussi là, de prendre soin de soi avant de contribuer à une cause. Ça j'aimerais mettre l'accent là-dessus parce que c'est... c'est facile de s'engager là, c'est ça, dans une cause, mm-hmm. mais de prendre soin de soi, là, c'est primordial. Là. Mm-hmm.
Le bien-être, justement, est un aspect très important. Donc là, c'est sûr qu'on a fait une introduction au sujet parce que c'est tellement gros. Ouais, mais pour en apprendre plus, en fait, là, le collectif que tu représentes aujourd'hui, Climat Santé Action, organise un panel le 26 mars prochain sur l'éco-anxiété, l'action climatique et l'alimentation durable. Donc, rapidement, est-ce que tu pourrais me dire en quoi ça consiste?
Oui. Mais notre événement, ça va être un panel de discussion interactif portant sur l'action climatique et les bienfaits de l'alimentation durable sur notre santé physique et mentale. Puis on va inclure vraiment une partie sur l'éco-anxiété. Fait que c'est vraiment une belle occasion si vous voulez en savoir plus sur l'éco-anxiété. Puis ça va être une experte dans le domaine qui va venir en parler, Maxime Boivin, qui est chercheuse à l'INSPQ et qui est professeure à la Faculté de lettres et de sciences humaines à l'Université Laval. Mm-hmm. Il va aussi avoir la présence de Vicky Drapeau, professeure à la Faculté de médecine à l'Université Laval qui va venir parler d'alimentation durable. Il y a aussi, il va y avoir la présence de deux organismes communautaires qui vont venir partager avec nous ce qu'ils font là, dans, comme action par rapport à l'alimentation durable, qui est Sauve ta bouffe et les urbainculteurs. Il va y avoir aussi un peu d'art, là, une performance de slam par Véronica Rioux et Jeff Gagnon.
Wow!
Puis le tout est animé par Alexandre Gavievich, professeur en politique climatique. Désolée, son nom de famille est compliqué à prononcer.
Mais on le connaît ici, donc...
Ouais, vous êtes plus habitués. Donc, c'est ça, au menu, plein de... On va démystifier là, tout ça, alimentation durable, éco-anxiété. Il va y avoir aussi des boules d'énergie, là, si vous voulez venir chercher un petit snack. Là.
Ben, c'est super.
C'est ça, le 26 mars, 19h30, au Foualy, à l'Université Laval.
Bon, ben super. Donc, nous, pour notre part, on va être présentes. Oui. Donc, 26 mars, au Foualier, à 19h30, le panel qui s'appelle « Agir en alimentation durable, c'est bon pour notre santé ». Donc, voilà. C'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui qui portait sur l'éco-anxiété. Donc, merci encore une fois à toi, Laurélie, d'être venue à l'émission pour nous parler d'éco-anxiété.
Merci beaucoup.
Oui, puis nous parler aussi de ce que tu fais avec le collectif. C'était super intéressant.
Ben, ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir
Donc, pour finir, merci aussi à vous, auditeurs et auditrices, pour avoir écouté aujourd'hui l'émission de Dans la mire climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. À bientôt!